VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Afrique du Sud, le président chinois Xi Jinping a promis aujourd'hui 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique, principalement sous forme de prêts, à l'occasion du sommet sino-africain qui se tient à Johannesburg jusqu'à demain. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Les 60 milliards de dollars sont destinés à financer 10 programmes de coopération sur 3 ans dans les domaines notamment de l'agriculture, de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la culture, de la sécurité, de la protection de la nature ou encore du développement vert. Sous les applaudissements, M. Xi a également annoncé que la Chine allait effacer les dettes gouvernementales sans intérêt échues à la fin de 2015 des pays africains les moins avancés. Dans le cadre d'un programme de paix et de sécurité, le président chinois a annoncé une aide sans contrepartie à l'Union africaine de 60 millions de dollars pour appuyer la construction et les opérations de la force permanente africaine et de la capacité africaine de réaction rapide aux crises. L'objectif de cette force africaine en attente est de diviser les forces du continent en 5 grandes régions qui assureraient à tour de rôle la sécurité des pays africains grâce à 25 000 hommes.
Parmi la vingtaine de leaders africains présents au sommet sino-africain, le président tchadien Idriss Déby Itno, son homologue de la RDC Joseph Kabila, le président nigérian Mohamedou Bouhari et son homologue du Sénégal Macky Sall. Le président sud-africain Jacob Zuma, hôte de la réunion, a rappelé que la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique avec des échanges qui ont atteint 300 milliards de dollars cette année d'après les estimations du forum sino-africain industriel. Afrique de l'Ouest maintenant, les élections historiques ayant porté Roch Marc Christian Kabore à la tête du Burkina Faso continuent de dominer l'actualité en Afrique. Cet ancien dignitaire du régime de l'ex-président Blaise Compaoré a été élu dès le premier tour, mais ses compatriotes ne lui ont pas donné la majorité absolue à l'Assemblée nationale, si bien qu'il devra composer avec les autres forces politiques du pays. Pour Dani Aïda, expert en gouvernance, c'est la preuve de la maturité politique du peuple burkinabé.
Les Burkinabés eux-mêmes le disent que plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que quand il y a un gouvernement aujourd'hui qui ne fait pas le désir des populations, les Burkinabés sont convaincus qu'ils sont capables de remettre ce gouvernement à sa place, soit en le renversant ou en le sanctionnant dans les urnes. Donc je crois que c'est assez compris de la nouvelle majorité qui va se dégager pour non seulement prendre en compte les attentes et les préoccupations de la population, mais faire en sorte surtout à respecter les normes et les principes d'un régime démocratique réel, en respectant la liberté publique, et surtout en gérant le pays convenablement sans tomber dans les méandres de la corruption, par exemple.
Dani Aïda, expert en gouvernance d'Africa Libre au Burkina Faso. Au Bénin, l'école est à la croisée des chemins alors qu'une partie des syndicats de l'éducation ont décidé de reprendre les cours après une longue grève. D'autres ont décidé de continuer avec le mouvement de débrayage jusqu'à satisfaction complète de leurs différentes revendications. Les plus importantes restent la revalorisation de la fonction enseignante et aussi la revalorisation salariale. Ginette Fleur-Adandé, notre correspondant au Bénin, nous en dit plus.
La FESEM dénonce le flou artistique et la trahison de l'État qui s'amuse à monter les syndicats les uns contre les autres.
La trahison à leur niveau est érigée en système et cette fois-ci, elle a été plus ingénieuse alors que sur le terrain, les enseignants boudent. Poutine ne sont pas d'accord.
Déjà mardi, certaines écoles ont encore fermé leurs portes et les apprenants renvoyés à la maison pour des jours incertains. Pire encore, les enseignants vacataires sont aussi remplacés. Ceux qui partent en grève ont aussi décidé de déposer craie tablier et exigent de l'État la sédentarisation de leur statut d'enseignant vacataire.
On décide de faire une expérimentation dans l'éducation, un secteur très sensible. On va faire des expérimentations sur des âmes innocentes.
L'école béninoise n'est pas encore sortie de l'auberge et cette éducation au lance-pierre réservée aux apprenants est un signe avant-coureur des échecs massifs aux différents examens. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale, les journées des leaders politiques de Centrafrique se sont tenues les 2 et 3 décembre à Bangui. L'objectif, jeter un regard sur les perspectives de reconstruction nationale et les recommandations du forum qui avait eu lieu dans la capitale centrafricaine. Anissé Clément, Guillaume Massogo, conseiller politique à la présidence de la République, tire les conclusions de ces consultations au micro de Félix Yepassi Zembrou.
en marge de la 70e Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu une réunion de haut niveau qui a été organisée sur la République centrafricaine. Et cette réunion de haut niveau portait sur l'après-élection. Et donc aujourd'hui, tous les candidats à l'élection présidentielle, mais aussi tous les leaders politiques, doivent être sensibilisés sur ce qui va se passer dans notre pays à l'issue ou après ces élections. Et donc, ils ont eu droit à un exposé sur la situation de fragilité du pays, parce que le pays est dans un état qui n'est pas encore tout à fait relevé. Et ils ont aussi eu droit aux défis qui se posent au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Donc, tous les secteurs clés de la vie nationale leur ont été présentés pour qu'ils aient déjà une prise de conscience assez claire de tout ce qui les attend après ces élections.
Anissa Clément Guyamama Sogo, conseiller politique à la présidence de la République centrafricaine. Actualité hors d'Afrique maintenant, alors que la conférence mondiale sur le climat se poursuit près de Paris, les pays en développement sont de plus en plus amers et mécontents de la tournure des négociations pour le projet d'accord. Ils accusent les pays riches d'ignorer les inquiétudes des plus pauvres et des plus vulnérables. Eric Manirakiza.
Vu la lenteur des discussions, Tasnim Essop, représentante de WWF, ironise en disant que certains participants sont en train de changer de place sur le pont du bateau pour avoir une meilleure vue de l'iceberg. Toute la semaine, l'atelier Yann Arthus Bertrand montre des photographies sur la fonte des glaces antarctiques. Les pays africains, qui sont les moins pollueurs et subissent de plein fouet les effets du réchauffement, réclament des réparations. Le fossile du jour, remis par des ONG aux mauvais élèves, a été attribué au Danemark, accusé de vouloir réduire son aide financière aux pays en développement. Les prix Pinocchio du climat sont allés à la compagnie pétrolière américaine Chevron et au groupe français EDF et BNP Paribas, accusés d'affaiblir les politiques climatiques. Enfin, hors du centre de conférence du Bourget, les artistes comme Patti Smith et Radiohead seront les vedettes en concert pour le climat.
Aux États-Unis, l'armée américaine a pris hier la décision historique d'ouvrir aux femmes tous ses postes de combat sans exception, y compris même au sein des unités d'élite. Tatiana Mosso.
Selon le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, les femmes pourront désormais accéder à tous les postes de combat si elles remplissent les conditions fixées, notamment les critères de capacité physique. D'après le patron du Pentagone, des femmes pourront conduire des chars, tirer au mortier, être membres des forces spéciales comme les bérets verts ou les Navy SEALs, ou mener des soldats d'infanterie au combat. Ashton Carter a ajouté que l'armée doit avoir accès au plus grand nombre possible de talents et ne peut laisser les femmes de côté. L'armée américaine compte environ 15% de femmes dans ses effectifs et l'administration Obama avait annoncé en 2013 sa volonté d'ouvrir les postes de combat aux femmes. Trois jeunes femmes ont marqué un point symbolique cette année en réussissant la très dure formation des Rangers de l'armée de terre américaine.
La tuerie de San Bernardino en Californie maintenant, le couple qui a tué 14 personnes dans cette tuerie, Sayed Farouk et sa femme Tashfin Malik d'origine pakistanaise, étaient en mission selon les autorités américaines et disposaient d'un énorme arsenal. La piste terroriste reste donc une possibilité, même si la motivation du carnage reste encore mystérieuse. Sayed Farouk, qui a fait irruption avec sa femme Tashfin Malik en tenue de commando dans un déjeuner de Noël des services de santé de San Bernardino, pour lesquels il travaillait d'ailleurs, semblait s'être radicalisé selon la chaîne de télévision CNN, citant des sources policières. Le couple a fait au total 14 morts et 21 blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir au courant décembre pour évoquer les violations des droits de l'homme en Corée du Nord. C'est ce qu'annonce la mission américaine auprès de l'ONU. 9 membres du Conseil, dont la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, ont appelé à une telle réunion, la deuxième sur ce thème, dans une lettre adressée à l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, qui préside le Conseil ce mois-ci. Et enfin, le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté la Russie et l'Ukraine à œuvrer de concert pour la fin des tensions et le rétablissement du cessez-le-feu en Ukraine. Il a fait cette déclaration hier à Belgrade, en Serbie, au Conseil ministériel de l'OSCE. Il a demandé à Moscou notamment d'aider au retrait des troupes russes de l'Ukraine et aussi l'accès libre d'observateurs de l'OSCE à la région ukrainienne du Donbass. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.